Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans les premiers temps de l'ordre dominicain, un jeune étudiant, qui, sans être un mécréant, n'était pas non plus un pilier de sacristie, fit un songe étrange qui le détermina à demander son admission dans l'ordre. Je me vis, raconta-t-il, dans une plaine, avec autour de moi quatre maisons et, au loin, un orage qui menaçait. Je cours demander l'hospitalité à la première demeure, mais la justice qui y habitait refuse de me reconnaître pour l'un de ses amis et de m'ouvrir. Je sens l'affolement grandir de plus en plus quand je m'entends signifier le même refus successivement par la vérité et la paix qui habitaient la deuxième et troisième demeure. À la quatrième, la miséricorde s'excuse de ne pouvoir m'accepter sous son toit, mais, étant la miséricorde, elle me donna ce conseil. « Va au couvent des frères prêcheurs. Là, tu y trouveras l'étable de la pénitence, la crèche de la chasteté, l'herbe de la doctrine, l'âne de la simplicité, le bœuf de la discrétion, Marie qui t'éclairera, Joseph qui t'aidera et Jésus qui te sauvera. » Le Moyen-Âge, dans sa simplicité, savait apprécier comme il se doit le symbolisme et en user comme moyen de connaissance et de progrès spirituel. Nous avons malheureusement perdu cet héritage. Nous ne demandons plus à l'art de nous élever. Nous ne savons plus lui demander que de copier. Aujourd'hui, mes frères, en nous appuyant fortement sur les pères de l'Église pour ne pas errer, tâchons de glaner, ici et là dans le texte sacré, le sens symbolique des événements qui entourent le berceau de notre doux Sauveur, non par pure curiosité, mais pour en faire notre profit. Que l'Immaculée Mère de Dieu ouvre nos cœurs, bénisse nos efforts et féconde ce travail dans nos âmes, afin qu'il soit l'occasion d'un vrai progrès spirituel. Or, il arriva en ces jours-là. Oui, ces jours, choisis de toute éternité par Dieu, qui n'a rien laissé au hasard pour l'enfantement de son divin Fils. Tout est voulu, tout est organisé. Alors, qu'avait-il de spécifique ces jours-là? Eh bien, d'abord, c'étaient les jours les plus courts de l'année, pour nous rappeler à quel point le Fils de Dieu s'est abaissé pour nous. Mais aussi, c'est l'époque de l'année à partir de laquelle les jours se rallongent, marquant par là que la lumière est venue dans ce monde pour combattre les ténèbres et les vaincre, et pour faire grandir toute chose. Cela ne vous rappelle-t-il pas aussi, chers fidèles, cette phrase de saint Jean-Baptiste « Il faut qu'il croisse et que je diminue » Ainsi, pour que ce nouveau-né croisse dans nos cœurs, dans vos âmes, il faut lui céder la place, diminuer notre orgueil. Donc, il arriva en ces jours-là qu'il sortit un édit de César Auguste, ordonnant que l'univers entier fût recensé. Jésus n'est pas encore né, que déjà il veut obéir, se soumettre, pour nous délivrer de notre servitude. Ô homme, apprends par cet exemple à te soumettre à tes supérieurs. Femmes, soyez soumises à vos maris. Enfants, obéissez à vos parents. Mais ce recensement indique aussi un temps de paix. Et cela nous marque que ce roi de paix daigne visiter ceux qui aiment la paix, qu'il ne demeure que dans un esprit pacifié. Aussi, tant que le bien commun, tant que le salut des âmes n'entre pas en jeu, faisons taire nos critiques et cessons de toujours juger de tout en mal. Et tous partaient pour s'inscrire chacun dans sa propre cité. Joseph monta donc aussi de la Galilée, de la ville de Nazareth, vers la Judée, vers la ville de David qui se nomme Bethléem, parce qu'il était de la maison de David. Ils partent donc, incertains qu'ils sont, du moment de la naissance. Ils partent tout de même, car le Fils de Dieu veut naître au cours d'un voyage. Pour nous apprendre que nous ne sommes sur cette terre qu'en voyage vers le ciel, et qu'il est, lui, la voie qui y conduit. Ils partent et se dirigent vers Bethléem. Pourquoi Jésus a-t-il voulu naître à Bethléem? Eh bien, tout d'abord, pour affirmer, malgré sa soumission et sa grande pauvreté, son origine royale. De plus, Bethléem signifie « maison du pain ». Or, n'a-t-il pas dit de lui-même « Je suis le pain vivant descendu du ciel » ? Ô prodige admirable ! Pour que l'homme pût manger le pain des anges, le Créateur des anges s'est fait homme. Mais poursuivons notre texte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Que ce terme de premier-né ne nous abuse pas, mes frères. Les pères de l'Église ont célébré à l'envi et défendu la virginité de l'Immaculée Mère de Dieu, avant, pendant et après l'enfantement, expliquant que ce terme de premier-né était une expression consacrée par la loi de Moïse et qui n'impliquait nullement l'existence de frères ou de sœurs. Mais il reste vrai de dire que Jésus est le premier-né et l'aîné des élus de la grâce. De ce point de vue, donc, oui, il a beaucoup de frères et sœurs. Donc, la Vierge enfanta. Le Fils de Dieu, ayant résolu de paraître au monde dans une chair mortelle, voulut naître d'une Vierge pour montrer ainsi combien la gloire de la virginité lui était chère. Mais c'est trop peu de dire que Jésus est sorti du sein de Marie comme il est sorti du tombeau, en laissant intact le sceau. Car de même que le rayon de lumière, traversant le cristal, le fait resplendir et l'orne d'une nouvelle beauté, ainsi celui qui est la lumière des hommes part-il sa très sainte mère d'une nouvelle splendeur par cette naissance. Et elle l'enveloppa de l'ange. Approchons et contemplons. Celui qui revêt la nature de sa parure si variée est enveloppé dans de pauvres langes. Pourquoi veut-il cela? Pour que nous puissions recouvrir la robe première de notre innocence. Celui par qui tout a été fait voit ses mains et ses pieds comme enchaînés, afin que nos mains soient libres pour toutes sortes de bonnes œuvres. Mais qu'en faisons-nous, ô mes frères, de cette liberté si chèrement reconquise par ce doux enfant? Quelles bonnes œuvres pouvons-nous, aujourd'hui, offrir au divin enfant, après cette période de l'Avent? Et elle le coucha dans une crèche. La tradition nous précise même entre un âne et un bœuf. Pourquoi cette mangeoire? Pourquoi ces animaux? L'homme, créé par Dieu un peu en dessous des anges, était devenu charnel et animal à force de vivre comme une bête. Ses instincts grossiers l'occupaient tout entier. Il ne pensait plus au ciel. Qu'à cela ne tienne, venu pour sauver ceux qui étaient perdus, Dieu va nous prendre là où nous sommes. Nous ne pensons qu'à manger. Il se fait notre nourriture. Nous ne savons où le trouver. Il se met dans une mangeoire, à notre merci, pour nous nourrir comme un troupeau sanctifié du pur froment de sa chair divine. Mais c'est afin que nous changions cette vie tout animale. Depuis tant de temps que nous communions, sommes-nous, dans notre quotidien, plus proches de l'ange ou de la bête? J'entends bien, vous direz sans doute, le pain eucharistique est un pain trop sec pour nous. Ah, mes frères, c'est votre faute. C'est que vous communiez sans Marie. Mais oui, voyez cette mère bénie, qui allait son tout petit, afin de donner à ce pain de vie la douceur du lait. Ce n'est pas sans leçon pour nous. Quand vous communiez, songez donc à invoquer votre mère pour bien communier. C'est à elle de préparer votre âme. C'est à elle à accueillir Jésus dans votre cœur. C'est à elle qu'il faut confier les grâces eucharistiques pour les faire fructifier. Ah oui, accueillons. Accueillons souvent Jésus hostie dans notre cœur, avec Marie. Parce que, à Bethléem, en cette nuit, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Oh, ne nous scandalisons pas. Combien de fois déjà n'avons-nous pas, par nos résistances à la grâce, refusé l'entrée de notre âme à la Sainte Famille. Mais continuons le texte évangélique. Et il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui demeuraient aux champs et veillaient durant la nuit sur leurs troupeaux. Les premiers invités au berceau du Sauveur sont les bergers. Ils sont une figure de ces pasteurs qui auront à veiller sur le troupeau du Christ. Tel est l'ordre voulu de Dieu même. Le Christ se manifeste à ses pasteurs pour qu'il l'annonce, lui, le Verbe fait chair, aux autres hommes. Et vous aurez remarqué, mes frères, que seuls les pasteurs qui veillent sont, premièrement, instruits de la bonne nouvelle, puis investis de la mission de l'annoncer. Ah ! Ne jugez pas vos prêtres sur leur degré de sociabilité. Chers parents, êtes-vous donc vous-même impeccable dans l'éducation de vos enfants ? Et ce qui est demandé avant tout à un pasteur, n'est-ce pas de protéger, d'avertir et de nourrir son troupeau ? Dans ces temps de ténèbres, voici les critères qui doivent vous guider dans le discernement des pasteurs. Condamne-t-il les erreurs ? Nourrit-il mon âme de la pure doctrine ? A-t-il le courage de me rappeler quand je m'éloigne du droit chemin, même si cela doit heurter ma sensibilité ? Chers parents, vous le savez mieux que nous. En éducation, la fermeté vaut mieux que la faiblesse et la démagogie. Remarquons encore que ce fut parce que les bergers n'avaient rien qu'ils furent choisis de Dieu et qu'ils le trouvèrent le soir même. Les rois mages, plus riches et donc plus lourdement chargés, mettront plus d'un an avant de trouver l'enfant Dieu. Ils étaient pauvres et seront jusqu'à la fin des temps la preuve de la prédilection de Dieu pour les pauvres. Enfin, outre la pauvreté, les bergers nous enseignent que la simplicité est le chemin de la sagesse, le chemin qui conduit à notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, comme tous les Juifs, ils attendaient le Messie, mais eux l'attendaient avec simplicité, sans se faire de système préconçu sur ce que devait être sa royauté. Aussi, quand l'ange leur indique le Messie dans un petit enfant, enveloppé de l'ange, avec simplicité, ils croient à sa parole, et leur simplicité leur fait goûter toutes les joies que recèle ce mystère. Notons aussi la hâte qu'ils mettent à trouver Jésus, et qui condamne notre indolence et notre négligence. Mais surtout, remarquons qu'en cherchant Jésus, ils trouvèrent d'abord Marie. Dès le commencement, Marie nous apparaît comme l'intermédiaire entre Jésus et nous. Bien téméraires serions-nous de vouloir aller à Jésus sans passer par Marie. Et le pape François, qui entend célébrer œcuméniquement l'année Luther, devrait bien prendre garde que ce maudit hérésiarque s'est attaqué aux deux colonnes de l'Église, la Sainte Messe et la dévotion mariale. Enfin, il est important de remarquer le silence de Marie et la prédication des bergers. Marie, Mère de Dieu, se tait et elle écoute. De simples pasteurs, très ignorants, parlent. Mystère des ordonnances divines. Mais le cadre d'un sermon ne permet pas d'épuiser toutes les richesses symboliques d'un mystère tel que Noël. Aussi, contentons-nous d'indiquer à vos pieuses méditations ce silence et cette première prédication. Pour nous, il nous faut conclure. Et pour ce faire, le mieux est encore d'appeler une nouvelle fois à notre secours la puissante éloquence de saint Augustin. Par la grandeur de celui qui vient à nous, et par la grandeur des humiliations auxquelles il se réduit pour nous, nous pouvons comprendre la profondeur de la chute dont il nous relève, et la grandeur de l'œuvre qu'il vient accomplir en nous. Vous avez voulu, étant homme, faire le Dieu ? Cela avait tourné à votre perte. Lui, étant Dieu, a voulu se faire homme pour retrouver ce qui était perdu. L'orgueil vous avait tellement abîmé que vous ne pouviez être relevé que par l'humilité d'un Dieu, car Dieu s'est fait homme afin de faire de nous des dieux. Ô homme, pour qui Dieu s'est fait homme, il faut que tu t'estimes quelque chose de grand. Mais pour grandir, il faut que tu descendes, parce que, pour venir jusqu'à toi, Dieu est descendu dans une mesure infinie. Reconnais, ô chrétien, ta dignité, et devenu participant de la nature divine, crains de revenir par une vie indigne à la bassesse de ta première condition. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.